bonsoir. Un match pour rêver. Le Paris Saint-Germain joue ce soir la demi-finale de la Ligue des Champions avec l'espoir de passer au tour suivant. Ce serait une première historique. Nous serons dans un instant en direct de Lisbonne où le match se joue tout à l'heure. Le masque désormais obligatoire dans les entreprises, des open space jusqu'au couloir. Une bonne nouvelle pour lutter contre le coronavirus, nous dira un médecin. Mais qui doit la faire appliquer cette décision? Ce n'est pas si simple, on va le voir. Au sommaire également, l'ancien adjoint d'Anne Hidalgo, Christophe Girard, se met en retrait du Conseil de Paris. Il est visé par une enquête pour viol depuis ce matin. Une mutinerie dans un camp militaire au Mali. La France condamne fermement le verdict au procès de l'assassinat de Rafik Hariri. Et puis quand la nature nous réserve encore quelques secrets, 30 nouvelles espèces marines découvertes aux Galapagos. Bonsoir Éric Delvaux.
Bonsoir Xavier.
Le téléphone sonne ce soir est aux États-Unis.
Oui, à 77 jours de l'élection américaine. Avantage dans les sondages à Joe Biden pendant que Donald Trump attend des jours meilleurs. Convention démocrate, mais attention, l'élection américaine n'est pas encore jouée. On en parle donc dans une quinzaine de minutes. Et vos questions, les auditeurs, c'est maintenant 01 45 24 7000.
Quant à la météo, demain, température en hausse, mais retour de la pluie par le nord-ouest, nous dira Élodie Calac.
France Inter.
Même si l'on n'est pas très foot, il faut le reconnaître, certains matchs comptent pour l'histoire. Ligue des Champions, demi-finale, Paris contre Leipzig ce soir et Lyon face au Bayern demain. La semaine est historique pour les deux clubs français, le PSG et l'OL, qui visent tous les deux la finale. Les premiers à se lancer à 21h, ce sont donc les joueurs parisiens. Bonsoir Emma Sarango.
Bonsoir.
Vous êtes à Lisbonne où se joue le match, donc devant l'hôtel des joueurs du PSG. Ils doivent en sortir d'une minute à l'autre et sont attendus, Emma, par quelques supporters.
Oui, ça y est, il y a foule là, Xavier, devant l'hôtel. Les supporters ont afflué tous en même temps, là, dans la dernière demi-heure, avec leur maillot bleu et rouge du Paris Saint-Germain, évidemment. Et on attend donc effectivement la sortie imminente, hein, d'une minute à l'autre, des joueurs qui vont se diriger vers le bus déjà stationné sur le parvis pour se rendre ensuite à l'Estadio d'Alous. Sauf qu'on n'est même pas sûr de vraiment les apercevoir. Cette fois, les joueurs, le dispositif de sécurité a été largement renforcé par rapport à mercredi dernier. Deux fois plus de policiers, des doubles barrières installées. Ce qui fait que les fans sont désormais tenus à distance à 5 ou 6 mètres. Sans doute, le club veut-il protéger au maximum ces joueurs du coronavirus. Mais qu'importe pour Adam, Azrine et Thiago, montpelliérains, mais fans du PSG. Ils sont arrivés en fin de semaine exprès pour vivre ici à Lisbonne cette demi-finale.
On veut voir les joueurs, on veut voir Mbappé, on veut voir Neymar, on veut voir Di Maria et tout ça quoi.
C'est pas tous les jours où il y a aussi peu de supporters parce que voilà, normalement c'est bouché aux abords des bus. On éprouve beaucoup de difficultés à approcher les joueurs.
On observe, on regarde la réaction des joueurs, s'ils sont concentrés sur leur match, s'ils sont pas en train de faire autre chose, on sait jamais, etc.
Ils ont intérêt à filer droit, hein, les joueurs, à être bien concentrés sur leur match parce que Thiago les surveille. Et si l'on en croit les messages publiés sur les réseaux sociaux, ils sont déterminés, les Parisiens, à l'image du milieu de terrain espagnol Pablo Sarabia, qui a écrit ce matin « Jour de demi-finale de Champions League, écrivons l'histoire ».
Allez, on espère que vous allez les apercevoir au moins, Emma. Merci et bonsoir Alexandre
Vaux. Bonsoir Xavier.
Avec nous dans ce studio, Alexandre, dites-nous, c'est déjà historique donc de se retrouver en demi-finale pour le PSG. Le club peut-il rêver ce soir d'aller un peu plus loin?
Oui, le club, le PSG peut se qualifier pour la première fois de son histoire. On l'a entendu en finale de la Ligue des Champions. Sur le papier, en plus, Paris est favori. Alors, sans son gardien vedette, Keylor Navas, mais avec trois de ses quatre fantastiques, Neymar, Mbappé et Di Maria de retour de suspension. La dernière info, c'est que Icardi, l'attaquant argentin, devrait être sur le banc au coup d'envoi. Thomas Tuchel, l'entraîneur parisien, a décidé de muscler son milieu de terrain avec l'entrée de Leandro Paredes. Le RB Leipzig, c'est une voie royale, selon certains, pour aller, eh bien, jusqu'en finale, qui découvrent tout simplement ce stade de la compétition. Leipzig qui s'appuie tout de même sur trois internationaux espoirs français, Upamecano, Mukiele et Nkunku, formés au PSG et coachés par un jeune entraîneur, Julian Nagelsmann, lui-même formé par l'entraîneur allemand du PSG, Thomas Tuchel. Les deux hommes se connaissent donc bien et d'ailleurs, point positif, Xavier, c'est Tuchel qui mène au point dans leur confrontation de victoire à zéro.
Alexandre Vaux, merci beaucoup. Demi-finale de Ligue des Champions, donc PSG Leipzig à suivre donc à la télé, uniquement sur la chaîne payante RMC Sport ou bien dans un bar. Notez qu'à Paris, d'ailleurs, des contrôles sont prévus pour faire respecter les gestes barrières dans les établissements qui rediffusent la rencontre. Un dispositif spécial est aussi prévu autour des Champs-Élysées pour éviter les rassemblements de supporters. Là encore, Covid oblige. Pendant ce temps, en Espagne, après l'entraîneur Quique Setién, le FC Barcelone se débarrasse de son directeur sportif, le français Eric Abidal, 3 jours après la débâcle de son équipe face au Bayern dans cette même Ligue des Champions. Enfin, match d'ouverture OM Saint-Etienne reporté, la Ligue 1 revoit son planning pour la première journée. En cause, 4 joueurs confirmés positifs au coronavirus. C'est la rencontre Bordeaux-Nantes qui est avancée à vendredi soir.
Le masque sera donc désormais l'accessoire indispensable pour se rendre au travail.
Le masque obligatoire, Eric, dans les couloirs, les salles de réunion, les open space, à la seule exception des bureaux individuels. C'est la mesure phare du nouveau protocole sanitaire en entreprise présenté par la ministre du Travail aux partenaires sociaux ce matin. Tout le détail d'ailleurs est à retrouver en ligne sur franceinter.fr. Mais comment faire appliquer ce port obligatoire du masque dans les locaux privés des entreprises? C'est aux employeurs que revient cette responsabilité, comme l'explique Sabrina Kemel, avocate en droit du travail.
En matière d'hygiène et sécurité, on rigole pas au sein des entreprises. Donc dès lors qu'un employeur estimera que les salariés doivent porter le port du masque parce que, par exemple, la distanciation physique n'est pas possible, le salarié n'aura pas moyen de s'en exonérer, sauf si il y a une circonstance médicale. Là, c'est tout autre chose. Mais sinon, il n'a pas moyen de s'en exonérer. Il doit obéir aux directives de l'employeur. L'employeur est maître au sein de son entreprise. Donc, il y impose les mesures de sécurité qu'il veut, tant qu'elles sont proportionnées. Ça peut passer par note interne, ça peut passer par une modification du règlement intérieur, mais si vous voulez, ça va pas être une simple parole, le port du masque est obligatoire, parce que en cas de contentieux, on n'a pas de preuve, hein, il faut se prémunir. Donc l'employeur, soit il envoie un mail, soit il le met dans une charte Covid, par exemple, on a déjà vu des chartes Covid, soit il le met dans un règlement intérieur. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont imposé le port du masque aux salariés, le masque est obligatoire, si le salarié ne le porte pas, il peut être sujet à sanction.
L'avocate en droit du travail, Sabrina Kemel, qui souligne par ailleurs que un texte de loi peut contraindre un employeur récalcitrant. Cette décision, c'est en tout cas une bonne nouvelle pour Dominique Dupagne. C'est ce que réclamait ce médecin généraliste, signataire d'une tribune la semaine dernière à ce propos.
Il y a une logique qui se met en place. On ne peut pas avoir des messages contradictoires, sinon les gens sont perdus, il faut une cohérence. Donc on ne peut pas dire aux gens, ne mettez pas de masque dans une zone à fort risque qui est un espace fermé de travail, et dire aux gens, mettez un masque dans des espaces à faible risque que sont des rues extérieures où il y a du monde. Il faut être cohérent. Donc dès qu'il y a un risque, on met un masque, mais on ne peut pas, sous des prétextes économiques, donner des autorisations à ne pas en mettre dans des endroits dangereux. Donc oui, je suis tout à fait heureux que le gouvernement prenne acte de ce risque et réagisse positivement à notre demande.
Est-ce qu'il faudrait le faire aussi ailleurs, d'après vous ?
Par définition, une classe avec des élèves dedans, c'est un espace de circulation potentielle du virus. Et donc, même si ça pose des difficultés, surtout dans les petites classes, il faut prendre des dispositions pour que les élèves et les enseignants portent un masque d'une façon à ne pas se contaminer entre eux et à ramener éventuellement la maladie chez leurs parents ou pire, chez leurs grands-parents.
Le médecin généraliste Dominique Dupagne au téléphone d'Hélène Chevalier. Le port du masque, les gestes barrières, on ne le dira jamais assez. Tout cela doit se combiner pour lutter efficacement contre le coronavirus. Il faut aussi se faire tester au moindre doute, insistait encore vendredi Jérôme Salomon, le directeur général de la santé sur France Inter. Sauf qu'en Ile-de-France, depuis plusieurs semaines, l'attente est parfois insupportable devant les laboratoires, des files qui s'étendent sur tout un trottoir. Pour y remédier, l'Agence régionale de santé vient de mettre en place une plateforme téléphonique. Bonsoir Léo Téchère.
Bonsoir Xavier,
cette
bonsoir à tous.
Cette plateforme permet de mieux gérer les rendez-vous et surtout d'aller plus vite. Expliquez-nous Léo, ce sont les médecins qui doivent appeler?
Oui, s'ils reçoivent un patient avec des symptômes du Covid-19 ou un cas contact, ils appellent cette plateforme téléphonique qui, en moins de 24 heures, va trouver une place dans un laboratoire comme ceux de Biogroup et du docteur Alain Lemeur.
Là, on a eu, par exemple, 3 appels ce matin. Il y a une montée en charge progressive. C'est sûr qu'il faut se préparer pour la rentrée, ça c'est clair. Puis sans parler de deuxième vague, on est dans une situation assez préoccupante.
L'objectif est d'arriver à 1200 tests par jour pour ces patients prioritaires, diagnostic en 24 heures. C'est important d'être rapide, selon le président du syndicat des médecins généralistes de France, Jacques Battistoni.
Les enfants vont retourner à l'école, les virus vont recommencer à circuler. Et donc pour nous, il va être très important qu'on puisse accéder pour ces patients-là à un test et à un résultat rapide. C'est le seul moyen d'éviter que cette épidémie ne reparte.
Alors le syndicat MG France demande que cette plateforme téléphonique soit étendue à tout le pays. C'est envisageable selon le président de l'Union des professionnels de santé en biologie, le docteur Azoulay, qui a participé à la mise en place de cette plateforme téléphonique.
Ça peut tout à fait se dupliquer dans d'autres régions, ça, il n'y a aucun problème. On peut l'envisager en PACA. le virus circule aussi beaucoup. Mais avant de dupliquer, il faut qu'on regarde vraiment comment ça fonctionne.
Et après deux journées de tests concluants, la phase opérationnelle du dispositif doit démarrer demain dans toute la région Île-de-France.
Léo Téchère en direct sur France Inter, merci beaucoup. Ce soir, la France enregistre 2238 cas de coronavirus supplémentaires depuis hier. C'est un peu moins que ce week-end où l'on enregistrait 3000 nouveaux cas quotidiens.
Christophe Girard se met ce soir en retrait du Conseil de Paris.
Une décision prise après l'ouverture ce matin d'une enquête pour viol. Un homme âgé de 46 ans accuse l'ancien adjoint parisien de l'avoir forcé à avoir des relations sexuelles. Dans un tweet, Anne Hidalgo se dit satisfaite de l'ouverture d'une enquête qui, je cite, permettra à la victime de s'exprimer et à la manifestation de la vérité. Quant à l'avocate de Christophe Girard, elle estime que l'ouverture d'une procédure lui permettra de s'exprimer clairement. Delphine Meillet.
L'enquête préliminaire, elle a une vertu majeure, c'est qu'elle permet le contradictoire. C'est-à-dire Christophe Girard va être auditionné par la brigade des mineurs qui a été saisie de cette affaire. Il pourra s'expliquer sur la manière dont il a fait connaissance de cette personne, sur les faits qui l'accusent, et ça lui permettra de se livrer auprès d'enquêteurs qui connaissent les infractions en matière de viol, et pas nécessairement d'être auditionné par des journalistes qui prennent souvent la parole de la personne qui met en cause comme parole d'évangile. Cela dit, je peux vous dire que juridiquement, ça ne tient pas une seconde. Ça ne tient pas une seconde parce qu'il n'y a pas d'infraction. Christophe Girard conteste absolument les faits. Par ailleurs, concernant l'ancienneté des faits dénoncés, eh bien les faits sont prescrits.
Bonsoir Ariane Grissel.
Bonsoir.
Service police-justice de France Inter. L'avocate de Christophe Girard vient de le souligner. Enquête pour viol par personne ayant autorité, mais les faits datent d'il y a plus de 30 ans. Ariane, comment peut se dérouler une telle enquête?
Alors, chaque affaire a évidemment ses particularités, mais souvent, ces enquêtes tardives commencent par l'audition des témoins. Cet homme qui accuse Christophe Girard devrait lui aussi être entendu par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs. Autre méthode souvent employée quand il s'agit de faits anciens, une constatation sur les lieux. Une personne raconte par exemple avoir été victime de faits dans un immeuble qui se situe près de tel ou tel monument ou dans une rue connue. Aller sur place permet de vérifier la crédibilité à accorder à ces dires. Dans le cadre de cette affaire Christophe Girard, l'enquête préliminaire ouverte pour viol par personne ayant autorité vise effectivement à déterminer si cette infraction peut réellement être retenue. Dans son témoignage au New York Times, celui qui accuse Christophe Girard le dit « On peut dire que j'étais consentant », mais il parle aussi de pression, d'engrenage, de promesses. Il s'agira donc de déterminer la nature de cette relation 30 ans après les faits. Enquête extrêmement compliquée de l'aveu de ceux qui les mènent. Cette enquête ouverte hier a aussi un autre objet. Dans son entretien au journal américain, cet homme parle de viols qui ont commencé effectivement quand il était mineur, 16 ans, mais ont duré plusieurs années, donc possiblement après sa majorité. L'ouverture de cette enquête vise donc effectivement là aussi à savoir si les faits sont prescrits ou non.
Ariane Grissel, la France condamne ce soir avec la plus grande fermeté la mutinerie militaire en cours au Mali. Le Quai d'Orsay, pardon, parle ce soir d'un événement grave, situation confuse sur place. Le président Keïta et le premier ministre auraient été arrêtés, c'est ce qu'affirme le chef de cette mutinerie. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres de la capitale, Bamako, Bertrand Galichet, dans le même camp militaire que celui du coup d'État de 2012.
Située à une quinzaine de kilomètres de Bamako, cette garnison de Kati a été en mars 2012 le point de départ de la mutinerie des militaires contre le régime du président de l'époque, Amadou Toumani Touré, au moment de l'offensive djihadiste dans le nord du Mali. D'où la préoccupation exprimée par la France et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Même les États-Unis font savoir qu'ils s'opposent à tout changement de gouvernement en dehors du cadre légal. Une situation qui reste confuse en raison des rumeurs qui se succèdent. Seule certitude, les militaires ont pris il y a quelques heures le contrôle de ce camp, manifestant leur mécontentement en tirant en l'air. L'un d'eux affirme que leur groupe détient plusieurs hauts gradés. Les raisons précises de ce mouvement de révolte ne sont pas établies, mais le contexte politique au Mali est explosif. Sur fond de crise économique et sociale, une coalition formée d'opposants politiques et de chefs religieux demande instamment le départ de l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta. Face aux militaires, les appels au dialogue lancés par le gouvernement n'ont pour l'instant pas abouti.
Bertrand Galichet, un condamné et trois acquittés, le tribunal spécial pour le Liban a rendu son verdict dans le long procès de l'assassinat de l'ancien premier ministre Rafik Hariri, tué lors d'un attentat en 2005 à Beyrouth. Les quatre membres présumés du Hezbollah étaient jugés par contumace. Un seul donc a été déclaré coupable. Pour le reste, rien ne prouve, selon le tribunal, l'implication de la direction du mouvement dans l'assassinat. Ce verdict, Aurélien Colli, ne va pas apaiser le climat politique déjà tendu au Liban entre les communautés.
15 ans d'attente, une enquête internationale, un tribunal de l'ONU, des millions de dollars dépensés et au final une seule condamnation. Salim Ayash, le seul dont le tribunal est absolument sûr qu'il a participé directement à l'attentat. Manque de preuves pour 3 autres individus acquittés. Absence de preuves aussi pour relier l'attentat au gouvernement syrien ou à la direction du Hezbollah, le puissant mouvement chiite libanais allié de Damas et de Téhéran. Le tribunal souligne quand même que la Syrie et le Hezbollah avaient des motifs d'éliminer Rafik Hariri, devenu alors le chef de file de l'opposition à l'occupation syrienne du Liban. Il se dit aussi convaincu que le seul condamné est bien membre du Hezbollah et pas simple partisan. Le Hezbollah n'a pas réagi. Comme le régime syrien, il a toujours démenti son implication dans cet assassinat. Il n'a d'ailleurs jamais reconnu le tribunal spécial et l'enquête internationale qualifiée de politisée. Au siège du tribunal, à La Haye, Saad Hariri, qui a lui repris le flambeau de son père pour le leadership des sunnites libanais, a accepté le verdict en déclarant toutefois que les assassins de son père sortaient des rangs du Hezbollah et qu'il n'y aurait pas de repos tant qu'ils ne sont pas punis. Beyrouth, Aurélien Colli, France Inter.
À Maurice, le capitaine du bateau qui a provoqué la marée noire au large de l'île, arrêté aujourd'hui, ainsi que son adjoint. Ils doivent tous les deux comparaître devant un tribunal fin août. D'autres membres d'équipage seront entendus demain. Et quand les eaux de l'océan Indien au large de Maurice sont souillées par le fioul, fort heureusement, l'océan Pacifique, lui, nous réserve ce soir une belle surprise. 30 nouvelles espèces marines ont été découvertes dans les profondeurs des Galapagos, archipel qui appartient à l'Équateur, en Amérique du Sud. Pour cela, les chercheurs sont allés scruter à plus de 3000 mètres de profondeur, Célia Guiré. Alors, qu'ont-ils trouvé précisément?
Eh bien, ils ont trouvé 4 espèces de langoustes, une quinzaine d'espèces de corail, une espèce d'étoile de mer et 11 espèces d'éponge, un véritable trésor découvert grâce à des appareils sous-marins et téléguidés. Les explorations ont eu lieu en 2015 sur 3 montagnes sous-marines dans cette réserve des Galapagos. Cet endroit situé à 1 millier de kilomètres de la côte équatorienne est préservé de toute activité humaine destructrices comme la pêche au chalut ou l'exploitation de mines. La biodiversité y est très riche. Et cette découverte n'étonne pas le biologiste marin Bruno David, président du Muséum d'Histoire Naturelle, car l'océan profond est encore très méconnu.
Il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont allés sur la Lune comme d'hommes qui sont descendus à plus de 10 000 mètres de profondeur. L'océan profond, on le connaît très très mal. C'est vraiment une part de la planète qui est inconnu, sa biodiversité est encore moins connue, donc ce n'est pas du tout surprenant de trouver des nouvelles espèces en profondeur. Moi-même qui suis biologiste marin, j'en ai trouvé, j'ai découvert de nouvelles espèces aussi à d'autres endroits. Chaque fois qu'on fait un dragage à plusieurs milliers de mètres de profondeur, la probabilité qu'on trouve une nouvelle espèce est loin d'être nulle. C'est des myriades d'espèces qui sont totalement inconnues. Et même des espèces importantes, relativement grosses, comme celles qui viennent d'être découvertes sur les Galapagos, c'est pas du tout étonnant d'en trouver de nouvelles. Il y en a énormément qui sont non décrites encore.
D'ailleurs, le Muséum d'Histoire Naturelle travaille également depuis plusieurs années sur un programme de recherche, La Planète Revisitée, destiné justement à explorer le globe et découvrir de nouvelles espèces continentales et marines. Et c'est ainsi qu'un petit crabe rouge et blanc a été identifié en Nouvelle-Guinée et dédié au prince de Monaco qui avait financé l'expédition. Preuve que l'on découvre encore des espèces de crabes.
Les surprises de l'océan profond. Merci beaucoup, Célia Kiré. Et c'est à vous, Eric Delvaux.
C'était le journal de Xavier Demagny. Le temps avec vous. Bonsoir, Élodie Kellac.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec le retour de la pluie dans le nord-ouest demain?
Oui, on a une perturbation qui va arriver avec du vent sur les côtes de la Manche et puis des pluies sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie le matin. On pensera également à prendre le parapluie en région parisienne et au nord de la Seine puisqu'il pleuvra l'après-midi. Sur le nord-est, le centre, les nuages élevés voileront le soleil. Ils deviendront d'ailleurs de plus en plus épais au fil de la journée. Et puis c'est sur la moitié sud que l'on trouvera le soleil.
Et des températures en hausse demain?
Oui, on attend même un pic de chaleur entre mercredi et vendredi, suivant les régions. Alors demain, c'est sur le sud-ouest qu'il fera le plus chaud, jusqu'à 35 à 36 degrés. En revanche, il fera 21 à 26 degrés sous la pluie. Jeudi, ce sera vraiment la journée la plus chaude à l'échelle du pays, avec 31 degrés de moyenne au nord, 34 au sud. Il fera encore chaud dans l'est vendredi, mais ça baissera pour le week-end.
Élodie Kellac de Météo France.